hommes sont passés, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fous, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisées, les femmes, et de nos sœurs séparées. Les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Nos entraves, debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Merci de votre écoute. Alors, pour commencer, je vais faire une petite tour des actualités, enfin par rapport à la justice ou plutôt l'injustice face aux violences machistes que subissent les femmes, donc qu'il s'agisse de violences conjugales, féminicides, crimes sexuels qui ne sont où l'impunité des agresseurs est quasi totale, puisque je rappelle que 1% seulement des violeurs sont condamnés pour le crime de viol. Par rapport aussi à l'indigence des politiques de lutte contre la violence conjugale, je rappelle qu'il y avait eu un rapport du HCE le 9 juin 2021 qui se basait sur des chiffres et qui disait que en 2019, il y avait eu 125 femmes victimes de violences intrafamiliales qui s'étaient manifestées. Et sur ces 125 000 femmes victimes, seulement 52 000 des agresseurs avaient... Il y avait eu une réponse pénale pour seulement 52 000 des agresseurs, donc même pas la moitié. Et pour finir, sur ces 52 000, 33 000 seulement avaient été poursuivis. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le téléfilm « Elle m'a sauvée ». Et qui est passé donc il y a un petit bout de temps, je sais plus, peut-être quelques semaines, que j'ai vu. Donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez le revoir en replay. C'était une soirée sur M6, donc avec ce téléfilm, mais on peut le retrouver donc sur France TV en replay. Et ce téléfilm, Elle m'a sauvée, c'est le destin croisé de deux femmes qui ont ému et indigné toute la France en 2019, Julie Douib et Laura Rapp. Reliées par leurs histoires communes, ces deux femmes subissent des violences conjugales et la double peine institutionnelle. Sauf que bon, Julie Douib a été assassinée par son ex-conjoint. Laura Rapp est une survivante. Le réalisateur Yonut Teyanu a filmé à hauteur de femme et a donné à ces deux destins tragiques une dimension universelle. Avec beaucoup de pudeur, il a traité le phénomène d'emprise, les dysfonctionnements policiers, la violence des dénis judiciaires et institutionnels. Et il a rendu un magnifique hommage à toutes celles qui se dressent aux côtés des victimes et amplifient leur voix. Julie Douib a été exécuté par son ex-conjoint en mars 2019 de 3 balles tirées à bout portant après 6 plaintes. Bruno Garcia, qui est le grand-père de ses 2 enfants, a gardé... Non, pardon, je me suis trompée, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que les 2 enfants donc, de Julie Dwib sont maintenant éduqués par ses grands-parents, donc les parents de Julie Dwib. Mais ce qui est incroyable, c'est que donc son ex-conjoint qui a tué sa femme, donc la mère de ses enfants, a gardé l'autorité parentale. C'est terriblement choquant. Alors donc qu'il a tué la mère de ses 2 garçons et on voyait dans le reportage qui avait lieu après le film que les grands-parents doivent encore demander un accord pour tout ce qui concerne leurs petits-enfants. Par exemple, pour demander le suivi psychologique de ces 2 petits, ils sont obligés de demander au père qui a gardé l'autorité parentale, donc au meurtrier. Donc je vous dis une chose qui m'a particulièrement choquée, qui m'a marquée. Donc Laura Rapp, elle, a survécu grâce à sa détermination et à un tweet, notamment puisque en fait elle a réchappé à une strangulation de son ex-conjoint. Elle a été sauvée à quelques minutes près, même pas une minute près, je dirais, par des voisins qui ont entendu, qui sont arrivés à temps. Son ex-conjoint, à ce moment-là, a été mis en prison pendant quelques mois, environ 8 mois. Et chose terriblement abominable, c'est que la justice l'a fait sortir, voilà, sans même prévenir Laura Rapp, même pas. Voilà, donc Laura Rapp l'avait su à ce moment-là par son avocate, qui était Nathalie Tomasini. Et Laura Rapp a pensé qu'elle allait être, enfin qu'elle n'allait pas survivre et que son ex-conjoint sorti de prison allait certainement vouloir la chercher, la tuer. Et ce qui est évidemment, on peut s'en douter, souvent, c'est souvent le cas. Et donc, elle a désespéré, elle a tweeté à ce moment-là pour demander de l'aide à toutes les militantes, à toutes les personnes qui pouvaient réagir. Et cela a fonctionné puisque son ex-conjoint, à ce moment-là, a été remis en prison. Ensuite, ça a été très long avec des procès, etc. Donc, finalement, il a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle, assorti de 5 ans de suivi socio-judiciaire donc pour tentative de meurtre en décembre 2019. Elle a écrit un livre pour raconter donc son histoire, comment les réseaux sociaux lui ont sauvé la vie, avec le titre « Tweeter ou mourir » qui est sorti le 11 mars 2021. Elle dit « J'ai eu le déclic de déposer plainte. Le monsieur m'a dit « Les menaces de mort, madame, vous n'avez pas de preuves. La justice ne fera rien tant que vous ne serez pas roué de coups. » Donc bon, ça c'est un extrait juste de... Voilà, ensuite elle est intervenue souvent. Elle a été écoutée par le politique, mais bon, cela n'a pas eu vraiment d'effet grandiose sur les actions à faire. Voilà, donc cette fiction a été suivie de deux documentaires, justement, sur Laura Rapp et d'Olivier Pighetti, qui est un réalisateur aussi d'un autre film sur les Femmes, qui s'intitulait Femmes ou les seins de la révolte, qui avait été diffusé sur Teva en novembre dernier. Voilà, donc dans ce documentaire aussi, j'ai été marquée par plein de choses, mais notamment ce qui m'a marquée à un moment, c'est que on voyait donc pendant tous les procès qui ont eu lieu, à un moment, le désespoir de Laura Rapp parce que ça se passait pas bien. Et les avocats, ce qui m'a vraiment révoltée, c'était de voir les avocats de son ex-conjoint qui défendaient son ex-conjoint en disant non, il n'avait pas l'intention de la tuer. Et la preuve pour eux, c'était qu'elle n'était pas morte. Voilà, je vous jure, c'est ça. Bon, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Donc ils ont osé dire ça. Voilà, s'il avait vraiment voulu la tuer, rien ne l'aurait empêché, elle serait bien morte. Donc en fait, on préfère voir les femmes mortes finalement que de les défendre. Enfin, il faut qu'elles meurent. Où on donne finalement un permis de tuer. Hein. Moi, je dirais, on en est là parce que je suis vraiment... Ouais. J'ai pas de mots en fait. En plus, on voyait effectivement que, enfin, c'est pas rien que de réchapper à une strangulation, hein, à quelques, je sais pas, 30 secondes de plus, elle mourait. Donc il y avait une médecin après dans le documentaire qui montrait les photos de Laura Rapp après la strangulation, puisqu'elle était à l'hôpital et tout ça, et on voyait toutes les traces sur son cou, sur son visage, sur ses yeux, etc. Et cette médecin expliquait qu'il manquait que peut-être 30 secondes avant sa mort. Donc ça me fait penser aussi donc à un autre cas quand je vous disais voilà on attend que les femmes meurent finalement. Eh bien je pense à un autre cas aberrant qui est encore en cours. C'est le cas d'Alexandra Richard qui elle est en prison pour 10 ans après 6 tentatives d'être relâchée en fait. La cour d'appel de Rouen l'a laissée en prison pour 10 ans, voilà, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est défendue, elle n'est pas morte, et son conjoint terriblement violent qu'elle a subi pendant des années la menaçait régulièrement de mort, avait des armes chez lui, la battait, la violait, etc. Et un jour, elle a réussi à lui arracher le fusil et à se défendre, à le tuer. Le coup est parti et elle a pris 10 ans. Voilà, donc la justice s'acharne sur une femme qui s'est défendue. Donc je vais, du coup, vu que je vous parle d'Alexandra Richard, je vais un peu étoffer et vous raconter un peu son histoire parce que c'est important. Et cette femme existe, elle est actuellement toujours en prison. Il y avait une décision de cour d'appel qui devait être rendue le 24 mars dernier, donc c'est assez récent, et je viens de vérifier sur internet pour avoir le résultat. J'attendais le résultat, je voyais pas le résultat arriver, donc j'ai vérifié hier et j'ai vu que non, ils l'ont laissée en prison pour la sixième fois. Donc je vais vous raconter un peu son histoire. Il faut savoir aussi qu'il y a une cagnotte pour aider à soutenir Alexandra Richard. Donc si vous, ensuite vous avez envie d'aider, voilà, vous pourrez agir. C'est notamment l'association Oser le Féminisme qui suit cette affaire. Alors Alexandra Richard donc s'est défendue devant les menaces de mort de son conjoint qui la battait et la violait depuis des années. Ce jour-là, terrorisée devant le regard de Sébastien Geste, donc c'est son ex-conjoint, incontrôlable quand il avait bu, elle a pris son fusil de balle-trappe, discipline dans laquelle elle était débutante. Elle voulait seulement le dissuader de la tuer, elle n'a même pas fermé le fusil. C'est lui qui, en attrapant le canon, l'a refermé du même coup, mécaniquement, et le coup est parti. Elle a été condamnée à 10 ans de prison ferme, donc le 23 octobre dernier, à l'issue de son procès en appel pour homicide volontaire. Et je vous ai dit, il y a eu un sixième appel, donc le 24 mars, rien, il l'a laissée en prison. Elle a été également condamnée à payer des centaines de milliers d'euros aux parents de son bourreau, comme en première instance. Une fois de plus, une femme victime de violences conjugales est renvoyée derrière les barreaux d'une prison, loin de ses enfants, pour avoir voulu se défendre de son conjoint, pour avoir pris au sérieux les menaces de mort de celui qui, à 19 ans, avait déjà tiré sur un homme et qui devenait enragé dès qu'il avait bu. Son petit dernier, Jessie, 6 ans, ne voit sa mère qu'une heure par semaine à un parloir, comme ses deux autres filles, Abigail et Enola, 16 ans et 19 ans, et ce, depuis déjà 2-3 ans, 2 ans et demi. Une fois de plus, cette justice est inhumaine. La peine de 10 ans, entraînant une peine de sûreté d'au moins 5 ans, sans aménagement de peine possible, est particulièrement cruelle. Donc, Oser le Féminisme avait suivi l'avant-dernier procès et tous les éléments objectifs démontraient de manière évidente une scène de légitime défense et un coup de fusil parti de façon accidentelle. Alexandra a été bafouée à chaque fois, à chaque procès. Sa parole a été niée. Elle s'est mise à nu devant toute une cour de justice pour décrire toutes les violences qu'elle avait vécues, les viols, les coups, les menaces de mort la visant elle ou ses enfants durant 3 ans. Et comme une majorité de femmes victimes de violences, on ne l'a pas cru. On a parlé de surenchère, on a minimisé la dangerosité et la violence de son conjoint aux fins de discréditer la thèse de la légitime défense. En réalité, si cette affaire suscite un certain émoi dans l'opinion publique si elle mobilise les associations féministes, c'est parce qu'elle n'est pas du tout traitée, elle n'a pas été traitée comme elle aurait dû être. Ce qui indigne, c'est d'abord l'échec de la police et de la justice qui n'ont pas protégé Alexandra Richard suite à son dépôt de plainte contre Sébastien Geste. Donc, les armes présentes au domicile n'ont pas été saisies conformément à l'obligation légale et une médiation avait été mise en place. Et ça, c'est une mesure qui normalement est interdite dans les situations de violence conjugale. Malheureusement, l'injustice continue à faire des médiations juste pour gagner du temps. Alors qu'effectivement, ça ne protégera justement pas une femme de violence conjugale, c'est évident. Donc il y a des décisions de justice d'une incroyable sévérité. 2 condamnations à 10 ans de prison pour homicide volontaire avec une peine plancher de 5 ans. 5 refus de remise, donc 6 maintenant avec celui du 24 mars dernier, de remise en liberté conditionnelle. Des centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts, comme si ça ne suffisait pas. Donc qui témoignent d'un acharnement de l'institution judiciaire contre une femme qu'elle aurait dû protéger. Donc voilà, ce qui est particulièrement révoltant, c'est que l'institution judiciaire ne protège pas, donne l'impunité aux agresseurs et ne protège pas les femmes et au contraire même s'acharne quand elles réussissent finalement à se sauver. Voilà, donc la lutte contre les violences faites aux femmes a été érigée soi-disant en grande cause nationale. Pourtant, en 2022, on refuse toujours aux femmes de se défendre au risque d'y laisser leur vie. Est-ce que finalement elle aurait dû être la 128e femme victime de féminicide en 2016, puisque ça se passait en 2016, pour y être crue, pour être perçue comme la bonne victime, celle qui est morte, pour que Sébastien Geste soit enfin perçu comme l'homme qu'il était, soit un homme capable de tuer. Voilà, donc si vous voulez agir aussi, je l'avais déjà mis dans plusieurs podcasts, une pétition pour demander à changer le code pénal pour introduire une présomption de légitime défense pour les femmes qui tuent leur conjoint violent, ce qui constituerait une mesure de protection spécifique pour ces femmes, face au risque de revictimisation de ces femmes par les tribunaux en charge de ces affaires. Voilà, donc je vous remettrai le lien vers cette action que vous pouvez faire pour clarifier la loi sur la légitime défense. Voilà. Donc je reviens maintenant sur Laura Rapp. Laura Rapp, donc je vous disais, voilà, je vous ai parlé du documentaire racontant son histoire. Et j'ai retrouvé aussi une réaction d'elle sur les réseaux sociaux, donc le 7 avril, à la suite du documentaire. Elle disait « Il est 4 heures du matin, je n'arrive pas à dormir, je suis triste et en colère. Suite à la diffusion de la fiction, elle m'a sauvée sur M6. Je n'arrête pas de recevoir des témoignages de victimes de violences conjugales. C'est vraiment l'horreur, notamment ce qui concerne la protection des enfants. C'est même effroyable. Je ne compte même plus les témoignages où des hommes violents et ou incestueux ont la garde des enfants, des années de procédures judiciaires où les victimes sont broyées par la justice. Il y a des moments où je ne sais plus quoi dire, quoi faire. Ce n'est pas faute d'alerter les politiques, les professionnels, la société depuis 3 ans. J'ai écrit un livre pour alerter sur les dysfonctionnements. J'ai rencontré de nombreux politiques, fait des plateaux de télé. J'ai accepté qu'on fasse un film sur mon histoire, ainsi qu'un documentaire. Cela m'a coûté beaucoup sur le plan moral et je me suis mise à nu pour faire avancer la cause. Et après, les victimes parlent de plus en plus, c'est bien, mais sont-elles protégées pour autant? Je constate que rien n'est fait pour pallier aux dysfonctionnements à tous les niveaux. Tant qu'on ne mettra pas sur la table tous les dysfonctionnements, on continuera à avancer à pas d'escargot. Pour cela, il faut avoir du courage et arrêter d'avoir la main qui tremble. Maintenant, c'est au pouvoir politique de s'emparer de ces discours. Ne pas le faire est criminel. Voilà, effectivement, c'est au pouvoir politique. Donc, j'ai même pas envie de vous parler du résultat des élections du premier tour qui me déprime au plus haut point, effectivement. Donc, j'attends pas grand-chose de... Voilà. Bref. Donc voilà, donc tant de cas, d'exemples, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps. J'ai noté aussi par rapport à l'injustice, donc concernant une tentative de féminicide, un autre exemple à Clermont, le 22 février dernier, une femme a été victime de plusieurs coups de feu tirés par son ex-compagnon en février 2021. Elle avait pourtant donné de nombreuses alertes et le parquet avait classé ses trois plaintes. Et il avait rendu à cet homme les armes qu'il a ensuite utilisées contre elle. Avant ce passage à l'acte, cette mère de trois enfants donc, avait alerté à maintes fois les autorités. Selon de nombreux documents consultés par Mediapart, le parquet de Clermont-Ferrand a minimisé le danger jusqu'à décider, donc quelques jours avant, je vous disais, de rendre à l'homme l'arme qui a servi ensuite à ce qu'il lui tire dessus le 22 février dernier. Bon, heureusement, elle n'est pas morte, mais voilà, lamentable justice, encore une fois, affaire après affaire, les mêmes refus de prendre en compte la parole des femmes victimes et de les protéger, les mêmes opportunités laissées aux hommes violents d'atteindre leur cible, pas une de plus. Voilà, donc je vais donc Laura Rab, vous parlez du problème, donc d'un autre problème aussi, le fait que non seulement donc les femmes ne sont pas protégées, mais en plus, double aberration, c'est que ces hommes agresseurs, violents, qui peuvent aussi certains être incestueux, eh bien, obtiennent en plus la garde des enfants. Et ça, c'est voilà, ça arrive bien plus qu'on peut imaginer. J'ai découvert aussi ce phénomène en l'étudiant. Donc, je vais vous faire écouter du coup une lettre qu'a écrite Anne-Cécile Mailfer, qui est présidente de la Fondation des femmes. Donc, je suis en train de rechercher cette lettre. Voilà. Où elle est intervenue donc, sur France Inter dans une émission. Et où elle, en fait, elle écrit une lettre pour parler d'une femme qui s'appelle Adèle. Et vous allez voir exactement de quoi il s'agit. Donc, c'est une femme aussi qui existe. Aujourd'hui, cette histoire est vraie, évidemment, malheureusement. Ah, pardon. Donc, du coup, j'ai mon câble qui s'est défait. Excusez-moi, j'espère que ça va marcher. Voilà, je vais essayer de vous faire écouter cette intervention donc,
7h20, en toute subjectivité, avec la présidente voilà. de la Fondation des femmes. Bonjour Anne-Cécile Mailfer.
Bonjour.
Ce matin, lettre à une mère courage.
Chère Adèle, aujourd'hui vous vous réveillez et tout est calme dans la maison. Vous détestez ce calme. Ce calme, ça veut dire que les petits ne sont pas là, vous ne les voyez plus. Et bientôt encore moins, vous avez été condamnée à un an de prison ferme pour les avoir protégés. Le monsieur, vous l'avez connu il y a 10 ans, il est militaire et souvent en déplacement. En 3 ans, vous enchaînez les accouchements. C'est lorsque vous revenez de la maternité avec la troisième que vous découvrez qu'il consomme de la pédopornographie en présence des petits. Vous n'hésitez pas, protégez vos enfants, divorcez. Trop tard. Vous retenez votre fille de 3 ans et demi d'une fellation sur son petit frère, elle vous répond « Et à papa aussi, je dois arrêter de le faire ?» Avec vous, pas moins de 17 professionnels enchaînent les constats, les troubles graves du comportement de l'aîné, l'urgence à protéger les enfants de leur papa. Le défenseur des enfants emboîte le pas. Mais considérant les preuves insuffisantes, comme dans 70% des cas, la police classe l'enquête sans suite. C'est fini. Le père accusé en profite pour se venger. Conseillé par l'association masculiniste SOS Papa, il commande alors un rapport à Paul Bensussan, l'expert qui fait tomber les mères. Ce dernier, sans vous avoir jamais rencontré ni vos enfants, invoque le syndrome d'aliénation parentale. Conclusion, c'est pas ce monsieur qui a volé votre fille, mais vous qui l'a manipulée. Vous, la racine du mal. Et comme ça, sur la base d'un syndrome qui n'a jamais été prouvé, la réalité disparaît. La parole des petits n'a plus d'effet. Les 22 expertises pédopsies, envolées. Alors il obtient la garde. Après bien des péripéties, des déménagements qui suivent chaque signalement des services sociaux, nous sommes en 2020 et voici qu'il décide que pour la rentrée, il les emmènera en Nouvelle-Calédonie. C'est l'été, les vacances des petits dans votre pays de naissance, l'Italie, sont bientôt finies. Ils ne veulent pas rentrer en France, ils vous en supplient. Comment une mère se sent lorsqu'elle n'a pas d'autre choix que de forcer ses enfants à retourner chez un père qui les détruit? Vous n'en pouvez plus, vous les garder et demander la protection de votre patrie, mais c'est interdit. Il portera plainte pour enlèvement d'enfants, et vous perdrez tout, vos enfants, votre liberté, toute votre vie. Lorsque je vous ai parlé la dernière fois, vous m'avez demandé « Personne ne me croit, comment comptez-vous faire ?» J'ai eu envie de répondre « Dire la vérité, mais vous la dites déjà. » Je me sens une responsabilité ce matin plus forte peut-être que n'importe quel vendredi. C'est qu'ils sont 22 000 à être victimes d'inceste par leur père et que nous sommes dans le déni. Existe-t-il des mots suffisamment puissants pour faire reculer des millénaires d'imaginaires délétères sur les mers? Alors je vais simplement poser une question. Pourquoi est-il si difficile de croire qu'un père puisse violer son enfant et si facile de penser que c'est la mère qui ment?
En toute subjectivité.
Voilà. Donc si vous ne connaissez pas ce syndrome d'aliénation parentale dont elle a parlé, je vais vous rappeler ce que c'est. Eh bien, en fait, souvent, donc, les mères protectrices sont accusées d'inventer les agressions qu'elles dénoncent. On prétend qu'elles aliéneraient leurs enfants, qui seraient victimes non pas d'inceste, mais de ce syndrome d'aliénation, donc syndrome d'aliénation parentale. C'est une théorie qui a pris pied en France dans les années 80. Et il est bien difficile d'en débarrasser nos tribunaux, même en l'absence de tout fondement scientifique. Et après le dévoilement des crimes de son inventeur, Richard Gardner. Donc en fait, Richard Gardner, c'est celui qui a inventé ce syndrome, donc qui s'est prétendu spécialiste en psychiatrie ou psychologie, etc., psychanalyste. Mais en fait, pas du tout. Il n'était pas du tout expert, il n'y avait pas de fondement. Et même, c'était plutôt un porno-criminel, en fait, qui défendait la porno-criminalité. Donc, les enfants victimes d'inceste ne peuvent du coup compter ni sur la justice, ni sur leurs parents protecteurs, presque toujours la mère, qui est empêchée de les protéger car elle sera considérée comme coupable, comme vous l'avez entendu, ça a été le cas pour Adèle. Les pères incestueux, eux, ne sont pas désavoués comme pères, ni sanctionnés en tant que citoyens. Ils restent dépositaires de l'autorité parentale, bien intégrés à une société qui leur livre quasiment les enfants victimes. Patrick Jean avait écrit un livre qui s'appelle « La loi des pères » pour expliquer comment, notamment au cours des procès, le père violeur est présenté comme victime d'une machination et l'enfant victime comme un pantin qui serait manipulé par une mère vengeresse. Du coup, je vais enchaîner sur pour aller plus loin sur justement cette disqualification de la parole des enfants. L'origine donc de cette depuis quand ça existe et voilà. Pour cela, et puis je vais vous parler donc d'une tribune qui avait été publiée lundi 4 novembre dernier sur le site de Marianne, une tribune vraiment terrible qui avait été publiée par Delphine Provence, une avocate, et Paul Bensussan, le fameux psy qui en fait est un défendeur des agresseurs et un défendeur de ce SAP et qui malheureusement intervient sur de très nombreuses affaires. Il est notamment intervenu sur l'affaire Julie, dont j'avais parlé longuement dans un dernier podcast en interviewant la mère de Julie, où en fait il avait fait un rapport à charge de 104 pages sur Julie, alors que les violeurs du Julie, 20 pompiers, Julie a été violée par 20 pompiers, donc de ses 13 à ses 15 ans, il y a eu un rapport de recto verso pour ces violeurs qui ont été écoutés librement, alors que Julie, la victime, a eu un rapport à charge de 104 pages. Vous imaginez, voilà. Donc il y a eu une tribune qui a été publiée malheureusement donc sur le site de Marianne par ce Paul Bensussan. Et heureusement, des pédopsychiatres, psychiatres et avocats ont réagi à cette tribune qui donc défendait ce syndrome d'aliénation parentale. Donc ce sont Jean-Marc Benkemoun notamment, qui est un psychiatre, pédopsychiatre, qui a réagi. Je vous dis quelques noms. Gérard Lopez, il est décédé malheureusement, donc il avait réagi, un psychiatre, vice-président du Conseil national professionnel de médecine légale qui est très bien. Malheureusement, elle est décédée récemment. Hélène Romano aussi, qui est docteur en psychopathologie, et Jean-Marc Benkemoun, Rodolphe Costantino et Pierre Lévy-Soussan. Donc, voilà ce qu'ils disent. Voilà, donc ils disent l'Europe a validé le SAP d'après le docteur Bensoussan, donc c'est ce qu'écrivait le docteur Bensoussan dans sa tribune. Le Parlement européen vient pourtant de demander l'interdiction d'utiliser ce terme dans sa résolution du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants. Donc il cite le Parlement européen qui dit « Les services et acteurs étatiques, y compris par ceux qui décident de la garde des enfants, doivent considérer les accusations d'aliénation parentale portées par des pères abusifs à l'encontre des mères comme la continuation du pouvoir et du contrôle de ces derniers. » Voilà, donc le Parlement européen va bien à l'encontre de ce SAP. Il faut aussi dire qu'il y a eu un article donc, de ce docteur Bensoussan qui continue à faire le lobbying sur le SAP qui a été heureusement refusé, dans la, entre guillemets, Bible française en matière de connaissances, l'encyclopédie médico-chirurgicale, car ne recueillant pas de consensus scientifique. Le docteur Bensoussan ne cite pas non plus les travaux qui montrent comment le SAP peut être utilisé comme une arme de destruction par des pères violents lors de certains divorces. Ceci a été démontré par la célèbre étude de Silberg, commandée par le ministère de la Justice américain, qui voulait comprendre comment un nombre important d'enfants avait été placé par un juge en garde chez des pères violents et agresseurs sexuels. Tous ces pères avaient plaidé l'aliénation parentale de la part de la mère. Cette recherche a eu un retentissement considérable car elle montrait comment le SAP pouvait être utilisé dans un projet de pédocriminalité. On pourrait citer bien d'autres recherches encore. Donc ça, c'était en Amérique. Donc en France, il existe une sorte de lobby pro-SAP dont les membres doivent avoir des raisons variées d'adhérer à ce concept. Sinon, comment expliquer qu'en France, dans un manuel scolaire de première, dont le chapitre consacré aux problématiques sociales, et alors que les thèmes habituels sont l'inégalité, la marginalisation et la perte d'emploi, la précarité et l'illettrisme, le modèle d'exclusion présenté sur cette page est le SAP. Une question a été posée au gouvernement par un député sur l'utilisation de ce thème dans l'éducation nationale. Alors ensuite, c'est pédopsychiatres, je vais poursuivre la tribune, donc ils réagissent contre le SAP, évoquent l'affaire d'Outreau. Concernant l'évocation de l'affaire Outreau, Paul Bensoussan est là encore en flagrant délit de disqualification de la parole des enfants et d'illégitimité expertale, puisqu'il tire des conclusions de bribes de discours hors contexte sur plus de 10 000 pages de dossiers, alors qu'il n'a vu aucun des enfants concernés et qu'il n'a aucune compétence concernant le recueil de leurs paroles, n'étant ni pédopsychiatre ni pédopsychologue. La disqualification de la parole de ses enfants dans le temps du procès a été, comme toujours, le fait des adultes, Madame Badawi, les avocats des accusés, certains journalistes. Conséquence, le revirement total qu'a eu cette affaire Outreau. L'effet du storytelling d'Outreau ne s'est pas fait attendre. Il y a eu, après cette affaire, une chute de 25% des condamnations pour violences sur mineurs dès 2005, suite à cet exemple historique de disqualification de la parole de l'enfant. Nous, professionnels de l'enfance, pouvons affirmer que nous ne sommes plus parvenus alors à protéger de nombreux enfants agressés sexuellement. Revenons à la parole de l'enfant. La parole d'un enfant s'interprète, mais si elle est bien recueillie par des professionnels spécialisés et formés comme indiqué ci-dessus, on peut évaluer si elle est fiable. Si un enfant parvient à parler spontanément d'agression sexuelle après une séparation, c'est parce qu'il se sent protégé du parent agresseur et non par emprise du parent protecteur. De plus, plusieurs études dont nous avons lu la méthodologie montrent que lorsque l'enfant fait une déclaration spontanée d'agression sexuelle, la fiabilité de ses propos est de 100% à 99% selon les recherches. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'actuellement, à cause du travail du lobbying pro-SAP et de la pensée collective du type « les enfants mentent », même quand la parole de l'enfant recueillie est totalement fiable, concernant l'existence d'agressions sexuelles ou de violences de la part d'un parent et qu'une expertise faite par un professionnel formé l'atteste, beaucoup d'autres professionnels, dont des magistrats, refusent de le croire. Ceci est dramatique, car rien ne sera fait pour le protéger. Il ne s'agit donc pas seulement de recueillir ni d'interpréter correctement les paroles de l'enfant, d'évaluer le conflit de loyauté qu'il traverse, de déceler l'existence d'une emprise éventuelle, mais de pouvoir entendre la surdité du monde des adultes envers lui, redoublant les violences subies afin d'y remédier. Seule une solide formation et un changement radical de paradigme concernant la parole de l'enfant le permettront. C'est le mérite de la première déclaration de la CIVIS, qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, de proposer des solutions concrètes pour amorcer le chemin. Voilà, donc il faut saluer le travail qu'a fait la CIVIS, donc cette commission, et les recommandations, qui sont tout à fait intéressantes. J'en avais parlé dans une précédente émission. Voilà, donc par rapport à ce SAP, il y a aussi en France une institution qui forme des professionnels qui vont écouter les enfants victimes d'inceste, qui malheureusement valide le SAP. Et voilà, c'est une institution qui a pignon sur rue. C'est l'Institut du droit de la famille et du patrimoine qui organise un diplôme universitaire auditeur d'enfants, ce qui serait une formation pluridisciplinaire diplômante en France, consacrée à l'expression de la parole de l'enfant dans ses différentes modalités. Donc, par contre, on découvre sur le site de cet institut qu'il organise un colloque sur le syndrome d'aliénation parentale avec donc le docteur Paul Bensoussan, grand promoteur de ce syndrome. Voilà, donc ça a été dénoncé par Patrick Jean, justement. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Donc aussi je voulais vous parler, je ne sais plus où je la retrouve, il y avait une pétition d'une association face à l'inceste pour demander que, mais je ne la retrouve plus, mais je la mettrai, pour demander le signalement des enfants en danger qui soit obligatoire, ce qui paraîtrait complètement, c'est aussi une revendication de la CIVIS, sauf que ça n'est pas le cas actuellement, donc ça paraîtrait primordial. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Actuellement, le signalement est dérogatoire et non pas obligatoire pour les professionnels de santé tenus au secret. Et du coup, depuis des années, les professionnels de santé ne font que 5% des informations préoccupantes et des signalements pour protéger les enfants maltraités. Donc voilà, il faudrait exiger de changer cette loi pour protéger les enfants et les professionnels qui les défendent, donc je vous ai dit, c'est aussi préconisé par la CIVIS, mais là je viens de vérifier aussi, d'après mes dernières actualités, l'ordre des médecins n'était pas favorable à ce signalement obligatoire. Là encore, c'est bien inquiétant. Donc pourquoi les professionnels de santé hésitent à signaler ? Eh bien parce que des pères maltraitants, du coup, souvent portent plainte contre ces médecins et prennent des avocats, etc. Et malheureusement, certains professionnels de santé qui avaient dénoncé se sont vus retirer le droit d'exercer, ce qui est vraiment scandaleux. Voilà, donc par rapport à, du coup maintenant je suis arrivée au sujet de l'inceste, donc je vais continuer sur ce sujet. Il y a eu j'avais retenu aussi cette affaire là qui est, dont je vous ai j'ai pas eu le temps de vous parler, donc je vais le faire maintenant. Il y a à Toulouse une mère qui s'appelle Sarah Cady qui a décidé de porter plainte contre l'État pour ne pas avoir protégé sa fille d'un père incestueux. Donc je vais vous raconter son histoire. Voilà, je rappelle qu'il y a plus de 160 000 enfants qui sont victimes d'inceste en France chaque année. En plus, ça doit être un chiffre certainement sous-estimé. Or, 94% des plaintes sont classées sans suite. c'est beaucoup trop. Je viens d'en parler, la présomption d'innocence est importante, mais la parole de l'enfant n'est pas assez écoutée. L'intérêt supérieur de l'enfant devrait primer dans ses affaires, et la parole des mères aussi, évidemment. Donc cette femme, Sarah Cady, a déposé plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger. Elle reproche à la justice française d'avoir maintenu un droit de garde, là aussi, donc on en revient, au père de sa fille, alors qu'il avait un comportement incestueux et qu'il a été condamné en mars 2019 pour, en plus, avoir agressé une collégienne, à ce moment-là, dans le Lot. Pendant plus de 4 ans, de 2015 à 2019, sa fille, Marie, qui a 11 ans aujourd'hui, donc c'est un nom d'emprunt, a été victime d'agressions sexuelles par son père pendant ses gardes le week-end et la moitié des vacances scolaires, alors que l'homme avait été inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il a finalement été condamné le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse à 25 mois de prison, ce qui me semble assez dérisoire, et un suivi socio-judiciaire de 3 ans pour agression sexuelle incestueuse sur mineur. Donc la première plainte qu'avait déposée cette maman en 2015 avait été classée sans suite. Cette condamnation, donc je vous ai dit aujourd'hui, donc il a été condamné heureusement le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse. Déjà, la peine me semble pas très assez importante, mais en plus, cette condamnation est bien tardive, puisque leur fille Marie avait déjà dénoncé des faits d'attouchement sexuel en septembre 2015, donc de 2015 à 2022, dès l'âge de 4 ans. À l'époque, l'enfant révèle que papa lui touche le zizi pour jouer, pas pour la laver. La maman, séparée du père à l'époque, vérifie ses dires et porte plainte. Elle sera classée sans suite par manque de preuves. La justice décide alors de maintenir le droit d'hébergement, et c'est ça qui est vraiment aberrant, et de visite, donc un week-end sur deux, la moitié des vacances, au père Jérôme S., un Lotois, aujourd'hui âgé de 43 ans. Donc cette maman dit « À l'époque, on m'a prise pour une maman aliénante, donc voilà, on revient à ce syndrome, jalouse, qui réglait les comptes de sa séparation. La justice ne m'a pas crue. Elle m'a demandé de me calmer, elle m'a ordonné de rendre ma fille à son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Je devais la laisser à son bourreau. » Voilà, donc espérons que, bien, je ne sais pas, ça me paraît intéressant, intelligent de porter plainte contre l'État. Voilà, donc je salue ce qu'a fait cette mère. Donc, voilà, que dire d'autre? J'avais noté aussi, oui, donc deux autres histoires qui m'avaient... frappé. Donc on a vu tout à l'heure l'histoire d'Adèle. Je reviens sur cette maman Adèle qui aujourd'hui a le droit par rapport à ses enfants, donc qui sont gardés donc par le père incestueux, à seulement un courrier par mois. Voilà les droits qu'a obtenu Adèle pour les contacts avec ses enfants. Décision du juge pour enfants. Donc Adèle est considérée comme aliénante par la justice française. Voilà. Par contre, il y a eu dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette histoire-là, un magistrat qui était vice-président du tribunal judiciaire de Dijon, qui avait mis une annonce sur un site libertin. Cette annonce, heureusement, avait été signalée à la police, où il proposait à des inconnus de dépuceler sa fille de 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce magistrat? Donc on voit que fait la justice par rapport à cela. Eh bien, ce magistrat a été considéré comme souffrant de graves stress post-traumatiques et il a été préservé d'une comparution devant un tribunal. Le père ne serait pas passé à l'acte, quel mérite exceptionnel. Il a été considéré tellement peu dangereux qu'il a été autorisé à retourner vivre dans son foyer avec sa femme et sa fillette. Donc il a simplement 2 ans avec un an de sursis, avec un bracelet électronique auquel Adèle, elle, ne peut prétendre. L'enfant donc de ce pédocriminel, ce magistrat-là, n'a pas été protégé par la protection de l'enfance. Elle va continuer à vivre avec le père qui a projeté et fantasmé son viol. Voilà donc cette autre histoire frappante d'impunité. par rapport aux agresseurs. Il y a aussi une autre histoire qui est arrivée le 19 mars qui m'avait frappée. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer aussi. L'histoire d'une femme qui s'appelle Nadia Mostefa qui s'est immolée par le feu. C'était un officier de gendarmerie. Elle était capitaine. Elle vivait dans l'Hérault. Elle avait été donc nommée capitaine en 2019. Elle s'est immolée par le feu dans sa voiture à Montpellier. Elle avait un fils de 4 ans dont elle avait perdu la garde. Donc voilà, on ne sait pas là aussi toute l'histoire, mais certainement une histoire du même genre. Donc elle avait été désenfantée. Elle avait un compte Twitter féministe. Elle était notamment abonnée à Sophia 7, une féministe féminine. Elle dénonçait les dysfonctionnements de la police. Elle dénonçait les classements systématiques des plaintes. Voilà, donc on peut imaginer qu'elle a été broyée comme toutes les femmes désenfantées. Et dans les articles qui sont parus à ce sujet dans la presse, il n'y a rien eu sur la portée symbolique et politique de son auto-immolation dans l'espace public. C'est pourtant loin d'être anodin. Donc il n'y a pas eu d'enquête pour savoir qui ou quoi. Voilà, rien du tout. Personne ne se questionne. Eh bien, nous pensons à elle et à son fils. Alors pour terminer, puisque je parle de tout ça, je vais relayer aussi sur le même sujet, l'instrumentalisation, donc le thème c'est l'instrumentalisation, comme on vient de le voir, de la justice par les pères violents et qui notamment conservent la garde. Eh bien, il y avait eu un masterclass qui avait été organisé par très intéressant sur ce sujet, donc par Oser le féminisme. Donc je vais poursuivre sur ça. Donc l'instrumentalisation de la garde. Aujourd'hui en France, les femmes victimes de violences masculines sont isolées et ne bénéficient d'aucun accompagnement. Souvent même, elles sont victimes d'un déni de justice. On ne connaît que trop bien les violences conjugales, mais que sait-on de la suite de ces violences ? Que se passe-t-il une fois qu'une femme a rassemblé son courage pour porter plainte ou sortir de la situation dangereuse dans laquelle ses enfants, le cas échéant, et elle se trouvent ? Il faudrait donc mettre en lumière ces parcours de combattante, car non seulement les violences ne s'arrêtent pas à la plainte ou à la dénonciation de l'agresseur, mais elles se poursuivent bien, bien trop souvent au-delà de la séparation. Les femmes peuvent subir alors une instrumentalisation de la garde de leurs enfants par le père violent, ainsi que tout un lot de violences judiciaires, ce qu'on appelle violences secondaires, violences aussi institutionnelles. Ainsi, d'après l'étude d'Emmanuel Mélan, criminologue, 79% des femmes sondées déclarent avoir subi des violences après séparation, dans certains cas plus de 5 ans après la séparation. Par ailleurs, Ernestine Roney indiquait dans une enquête menée en 2008 par l'Observatoire des violences envers les femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en collaboration avec le parquet du TGI de Bobigny que sur les 24 féminicides survenus sur le département entre 2005 et 2008, dans la moitié des cas, les assassinats s'étaient produits à l'occasion du droit de visite du père violent. Alors, les violences post-séparation. Une des idées reçues dans le domaine des violences conjugales est que les femmes, dont celles qui sont mères, victimes de violences par leur ex-conjoint, sont à l'abri de leur agresseur une fois sorties du mariage ou de la relation. Or, c'est un continuum des violences qui s'opère. Toutes les femmes dont nous avons recueilli le récit témoignent avoir subi des violences après la séparation, que celles-ci soient d'ordre physique ou psychologique. Pire, lorsqu'il y a des enfants de cette union, le lien avec l'agresseur est maintenu et ces femmes subissent alors harcèlement, manipulation, menaces, chantage. Les violences envers les enfants deviennent alors un moyen de torturer la mère. C'est un stratagème utilisé par les ex-conjoints agresseurs pour se venger de leurs ex. Ces hommes pensent que la femme et leurs enfants et les enfants leur appartiennent et ils considèrent la séparation comme une trahison qu'ils veulent punir. Le principe est le même que pour les violences conjugales. Les médias ne font malheureusement pas état de ces violences post-séparation, dont les éléments de possession, contrôle et vengeance devraient pouvoir être discutés. Parlons aussi des violences judiciaires. On pourrait penser que les violences ne sont constituées que par l'agresseur. Hélas, les témoignages de femmes victimes de violences montrent un vrai parcours de la combattante pour s'extirper des relations abusives qu'elles subissent. Cela commence au dépôt de la plainte, quand l'officier de police remet en cause la parole de la victime, tâche de la dissuader ou refuse sa plainte. Une fois la plainte déposée, les femmes rencontrent des difficultés à être crues et subissent infantilisation, dénigrement et souvent même des preuves à charge. On essaie de faire penser qu'elles sont de mauvaises mères. Puis, lorsqu'elles demandent des mesures de protection, ces femmes ne sont pas entendues. Au contraire, le juge va chercher le maintien du lien avec le père agresseur. Pour rappel, la justice et les lois de nombreux pays occidentaux ont très longtemps considéré que les enfants étaient la propriété du père. On sait pourtant que 40 à 60% des enfants témoins de violences conjugales sont directement victimes de violences exercées à leur encontre par l'auteur des violences conjugales. La loi du 18 juillet 2006 sur la garde alternée, votée sous l'impulsion du lobby des pères, fixe le cadre en matière d'hébergement alterné en cas de séparation conflictuelle et indique qu'il convient d'opter de manière préférentielle pour une résidence en alternance. Ainsi que l'a souligné le Réseau international des mères en lutte, la loi de 2006 pose problème car elle ne prévoit aucune exception au principe de l'hébergement alterné. Rien n'est prévu, notamment en cas de violence, et l'appréciation des violences et de leurs conséquences est laissée au juge. Cette loi rend ainsi très difficile la protection des victimes de violences, puisque les décisions prises la plupart du temps consiste à maintenir à tout prix un lien entre le parent violent et ses enfants. Il en va enfin de la responsabilité même des intervenantes ou intervenants, juges, policiers, policières, procureurs, assistantes ou assistants sociaux, services de protection de l'enfance, etc., qui devraient pouvoir être engagés. Or, cela n'est systématiquement jamais le cas, et ce n'est même en cas de mort de la mère et ou de l'enfant. L'instrumentalisation de la garde. Certains pères agresseurs se servent de leur droit de visite comme d'un outil pour faire souffrir leur ex-conjointe. Ils ont dans la majorité des cas un passif de violence envers la mère et ou les enfants, et leur part d'éducation et d'implication dans la vie de l'enfant est souvent moindre. Néanmoins, ces pères vont demander la garde, quitte à confier leurs enfants à leurs parents proches, la mère, la sœur ou une nouvelle conjointe, et ce, afin de maintenir un lien, une emprise sur leur ex-conjointe. La visite ou l'échange des enfants est alors l'occasion pour ces hommes de poursuivre leur harcèlement psychologique et parfois leur violence physique, que ce soit sur les enfants ou sur la mère. Donc il y a eu beaucoup de témoignages recueillis donc par notamment l'association Oser le Féminisme. Vous avez un exemple, donc Aurélie, une histoire symptomatique. Malgré des violences conjugales subies pendant et après sa grossesse, le juge des référés accorde un droit de visite au père violent qui n'a jamais montré le moindre intérêt pour l'enfant. Aurélie est alors contrainte par la juge à remettre son fils, né grand prématuré et asthmatique, sur le parking du gendarmerie. À cette occasion, l'homme se met à agresser verbalement Aurélie devant plusieurs témoins. Les gendarmes, qui conseillent alors à Aurélie de repartir avec l'enfant, se comportent néanmoins en complice du père. Ils refuseront de prendre la plainte de la jeune femme tout en acceptant celle du père pour non-remise d'enfant. Son ex-conjoint la menace désormais de lui retirer la garde et de faire placer l'enfant. Encore aujourd'hui, les juges ne protègent ni les mères ni leurs enfants contre les pères agresseurs. Il y a dans la volonté des tribunaux cette idée qu'il faut à tout prix préserver le modèle de famille traditionnel, entre guillemets, et impliquer les pères, même violents, dans la vie de leurs victimes. Donc, Emmanuel Mélan a fait une étude pour montrer que les hommes violents développent 4 stratégies violentes et anxiogènes pour la mère. Menacer de faire perdre la garde des enfants, 80% des dossiers. Utiliser l'enfant pour contrôler et piéger la mère, 89%. Faire alliance avec l'enfant contre la mère, 92%. Faire de fausses allégations et dénigrer, 92%. Les femmes se retrouvent donc dans une situation insoutenable. Elles ne sont jamais crues, ni lorsqu'elles dénoncent les violences post-séparation, ni lorsqu'elles se battent pour faire cesser les violences subies par leurs enfants. On les accuse immédiatement d'exagérer ou d'être trop protectrices, ou bien de chercher à se venger de leur ex-conjoint. Aurélie et tant d'autres femmes en France se trouvent ainsi contraintes par la justice à remettre leurs enfants à des hommes qui les ont violentés sous peine d'être menacées d'un retrait de la garde de leurs enfants si jamais elles s'y opposent. Sur quoi repose cette idée, pourtant incarnée par notre justice, que des hommes violents peuvent être de bons pères, même s'ils ont été des conjoints dangereux? C'est cette question que nous posons aujourd'hui à la société, mais surtout à tous les intervenants qui ont vraiment le pouvoir de faire changer les choses pour ces victimes de violences masculines. Voilà, donc je mettrai les sources de cette étude, avec aussi les sources de nombreux témoignages qui ont été récoltés. C'est une recherche donc, de l'association Oser le Féminisme, qui avait fait aussi un masterclass qu'on pouvait suivre en ligne sur ce sujet, avec des tas de références. Voilà, donc aussi rappeler que depuis les milliers des années 70, il y a des associations qui défendent les droits des pères, à l'image de SOS Papa ou de Les Papas égale les Mamans, qui ont imposé l'idée dans le débat public que les pères séparés seraient éloignés de leurs enfants par une justice favorisant les femmes. On vient de voir que c'est complètement faux. Et voilà, ils ont un argumentaire. Donc ces associations, la plupart du temps, sont des associations masculinistes, hein, justement, et qui utilisent un argumentaire biaisé en utilisant... Ils fustigent le très faible taux de garde alternée, 12% des cas en 2020. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'en réalité, les pères, dans leur très grande majorité, ne la demandent pas, cette garde alternée. Les cas de litige sont donc très limités et la fixation massive de la résidence des enfants chez la mère n'est pas une victoire des mères, mais bien la poursuite d'une division inégalitaire du travail parental. Voilà. Et en plus, on vient de voir que c'est plutôt l'inverse. Ce ne sont pas les papas qui sont en danger, mais ce sont la réalité sombre. C'est qu'en fait, une part non négligeable de ces pères qui sont mobilisés dans ces associations, souvent en réalité sont des agresseurs, sont souvent accusés de violences conjugales ou de violences envers leurs enfants et sont en procédure de divorce conflictuel. Et qu'en fait, ils se servent justement de ces associations. Ils utilisent le syndrome d'aliénation parentale, etc., pour demander la garde de leurs enfants contre les mères protectrices. Voilà, donc je vais faire une petite pause musicale qui sera bienvenue. Donc, alors, excusez-moi parce que là, je crois que j'ai perdu ma playlist et j'avais une très bonne... pause musicale. Mince. Ah, je me suis... du coup, il va falloir que je choisisse plus rapidement. J'ai pas le temps de la retrouver. Alors, je vais vous faire écouter, tant pis, Clémence en vacances, qui est aussi une bonne choix. Excusez-moi, j'ai pas réussi. C'est pas grave, c'est une musique classique Cum Dederit. Thank you. Alors, je vais refaire une autre petite pause musicale. Voilà, une autre avec Stojba Moru.
Amoro, oh, što je pa moro, što je pa moro, moro, šenja moj, što je pa moro, moro, šenja moj. Tam plavala, a tam plavala, tam plavala stada bijele.
Sera féministe sur Radio Galère. Alors, je vais reprendre sur le sujet de la pornocriminalité. Donc, la semaine dernière, je vous avais fait écouter une intervention de Céline Pic, présidente de Oser le Féministe, écrivaine et qui vient aussi d'écrire un livre. Et qui parlait longuement du procès des pornocrates, de la défense des victimes des sites des femmes qui subissent des actes de torture et de viol en pornographie, qui sont piégées, qui sont rabattues comme dans le système prostitutionnel. Donc le 21 janvier, je vais juste vous donner des nouvelles de ça, en fait, une petite réactualisation. Malheureusement, il n'y a pas grande grand nouveau, malheureusement. Mais bon, une piqûre de rappel. Donc, le 21 janvier 2022, Oser le Féminisme a signalé plus de 200 liens vers 2000 vidéos illégales auprès de la plateforme Pharos du ministère de l'Intérieur, signalant des actes de torture et de barbarie, notamment des viols collectifs à 80, gangbang contre femmes enceintes de 40 semaines, urine, coups, sadisme, atteinte physique irrémédiable, viol, vidéo de la catégorie anal par surprise, apologie de la haine raciale, apologie de la pédocriminalité, vidéo de la catégorie teen et fantasme familial. Donc depuis 3 mois, malgré l'interpellation au Sénat de Laurence Rossignol, malgré l'interpellation le 5 avril, donc c'est tout récent, d'Alban Gaillot à l'Assemblée nationale auprès du ministère de l'Intérieur, elle a soumis une question, donc c'était 5 avril 2022, je vais vous lire sa question. Donc Madame Alban Gaillot interroge Monsieur le ministre de l'Intérieur sur les suites données au signalement de masse effectué en janvier 2021 sur la plateforme Pharos concernant des vidéos illégales hébergées par des sites pornographiques. Le 21 janvier 2021, Oser le Féminisme a procédé à 200 signalements sur le site du ministère de l'Intérieur Pharos. Les vidéos signalées montrent des actes de torture, de barbarie, des incitations à commettre des crimes et des délits, de la pédocriminalité, des viols, de l'apologie de la haine raciale, des vidéos de revenge porn volées et maintenues sur ces sites très connus et fréquentés, malgré des demandes de retrait. La pornographie est une industrie internationale, multimilliardaire, qui repose sur des violences et humiliations extrêmes contre les filles et les femmes les plus vulnérables. L'impact sur la société tout entière est frappant. L'exposition des jeunes à ces contenus, dès l'enfance ou l'adolescence, a des répercussions sur le développement et la construction des modèles sexuels des hommes et des femmes de demain. Au regard de l'impact négatif de la pornographie déshumanisant les filles et les femmes, des violences commises contre celles présentes dans ces vidéos et de leur impact sur la société entière, il importe que l'État tienne son rôle de protecteur, enquête et punisse les criminels, afin d'aller vers une société d'égalité entre les hommes et les femmes, impossible tant que ces situations perdureront. Voilà, donc malgré les interpellations, il n'y a eu encore aucune réaction de Pharos et du ministère de l'Intérieur, aucune réaction de Madame Moreno en charge de l'égalité femmes-hommes, aucune réaction du gouvernement. Voilà. Donc, à propos de pornographie, je vais signaler aussi une publication donc, du collectif de survivantes de la porno-prostitution, collectif abolition porno-prostitution, dont je salue l'énorme travail, bénévole bien entendu. Eh bien, donc le CAPP avait publié une tribune sur Mediapart notamment, qui a été malheureusement dépubliée, ce qui est honteux, suite certainement à la pression des pro-prostitution ou des pro-et des transactivistes. Donc moi je remercie le collectif Abolition Porno-Prostitution pour cette publication qui s'appelait « Enfants, porno et danger, l'hypocrisie de la campagne de sensibilisation des pornocrates ». En effet, c'est une campagne orwellienne qui dénonce le collectif Abolition Porno-Prostitution qui a été organisée le 8 mars par le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, qui n'a rien trouvé de mieux que de consulter les personnes proxénètes, qui sont pourtant à l'origine du problème. Laisseriez-vous des producteurs et dealers de drogue vous expliquer les conséquences des drogues sur les enfants ? Non. Celles que vous invitez font partie du problème. L'article était donc relayé par Mediapart. Il a été honteusement dépublié suite aux pressions des pourfendeurs du viol tarifé qui serait devenu féministe. Ça, c'est mon commentaire à moi. Le travail du sexe, c'est le vocable des proxénètes qui deviennent des managers par la magie de l'inversion idéologique patriarcale. Donc là, je reprends la publication du CAPP. Depuis approximativement 40 ans, la mafia du porno a énormément travaillé à démocratiser cette industrie par le biais de pions qui font du prosélytisme. Aujourd'hui, nous avons Clara Morgan, Céline Tran, Katsuni, Ovidie ou Nikita. Toujours des femmes, tout au service de l'une des industries les plus lucratives du monde, menée entièrement par des hommes. Une donnée importante à retenir quand celle-ci vous parle ensuite de porno éthique ou féministe. De qui se moque-t-on ? elles, les égéries, entre guillemets, les porn stars, entre guillemets, les pions, donc, ont contribué à le rendre acceptable, glamour, à en faire une contre-culture, bref, à le rendre inoffensif. Elles l'ont introduit dans l'espace public et la culture populaire en s'affichant dans tous les médias, du plateau télé au magazine mainstream. C'est elles qui ont sorti le porno de la niche à laquelle il était cantonné, celle des adultes avertis, une niche d'où il n'aurait jamais dû sortir. Quand bien même les parents tenteraient une démarche pédagogique pour expliquer aux enfants que le porno est mauvais, que c'est violent, que ça ne représente pas la sexualité, que les femmes que l'on voit dans ces vidéos sont exploitées avec une espérance de vie de 37 ans, quand bien même ils expliquent que les gangbangs, les éjaculations faciales, les bukkakés sont des pratiques humiliantes et violentes pour les femmes, que pèsent leurs efforts face à une poignée de starlettes grassement payées pour servir l'industrie et qui passent leur temps sur les plateaux TV pour raconter dans un discours profondément individualiste qu'elles sont super heureuses, que le porno c'est glamour et merveilleux. Un travail comme un autre. Bref, que ce n'est que du cinéma. Quel intérêt, dans ces conditions, d'exiger des parents qu'ils fassent un travail qu'elles vont s'amuser à décrédibiliser par la suite. Que vont penser vos enfants en écoutant ces discours-là? Ils vous diront sûrement que vous êtes prude, coincée, que vous mentez. Car regardons ces femmes, ces pornocrates heureuses dans les médias. Écoutons les concernés. Mais quelles concernées au juste? C'est une bonne question. Les 52 femmes qui portent plainte contre Dorcel ou Jackie et Michel? Personne n'a envie de les écouter. Donc ça, ce sont les victimes. Donc il y a un grand procès en ce moment et j'espère que ça va donner lieu à à quelque chose de bon sur l'abolition de la pornocriminalité. Mais donc ces 52 femmes victimes hein, qui portent plainte, voilà, qui ont été rabattues et piégées dans la pornographie. Il faudra aussi qu'on en parle au site du gouvernement. Un véritable cirque. Il prétend renseigner les parents pour protéger nos enfants. On y retrouve des vidéos de ces fameuses proxénètes, coupables pourtant de les conditionner aux violences sexuelles. Ce fameux site qui indique que le porno est dangereux sans une seule fois mentionner le mot violence ou même viol. Comprenez bien qu'il ne faut pas toucher l'ego et le business des petites mafieuses qui rendent service à M. Taquet. Mais nous analyserons cela dans un prochain article. Voilà, donc effectivement, j'ajouterai une phrase de Isabelle Alonso que je suis en train de. Donc, dans son livre Les vrais hommes sont féministes, qui est un livre formidable. Et il y a tout un chapitre sur la pornographie. Et j'ai juste relevé une phrase, mais bon, en fait, tout le chapitre est passionnant. Comment guérir de cette sexualité pathologique? Comment cesser de la transmettre? Comment éduquer à la liberté? Et en fait, pour cela, il faudrait effectivement une éducation à une sexualité faite de désirs réciproques qui devrait être encouragée à l'éducation nationale, mais ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, toutes les tentatives qui ont été faites, notamment, on se rappelle des ABCD pour l'égalité, eh bien, se sont heurtées aux lobbies religieux et les ABCD de l'égalité ont été supprimés avant même d'avoir existé. Donc voilà, je citais Isabelle Anzo parce que ce que je retenais, c'était effectivement que ces ABCD avaient été supprimés et que c'était effectivement la plupart des lobbies religieux qui, voilà, les religions sont toutes misogynes, je le rappelle. Donc voilà, ensuite... je voulais vous dire quoi par rapport aussi, donc on vient de voir donc cette publication sur le peu de volonté politique gouvernementale pour lutter effectivement contre la porno-prostitution alors que nous sommes dans un pays abolitionniste. Donc c'est la même chose au niveau de la campagne qui a été faite, une campagne nationale de lutte contre la prostitution des mineurs que vous avez peut-être vu à la télé et tout ça. Eh bien cette campagne, voilà, n'est vraiment pas du tout bien faite, n'est pas au top. Donc c'est une campagne qui s'appelle Je gère, qui devait alerter sur le nombre croissant de milliers d'adolescents, d'adolescentes surtout, et quelques adolescents victimes de la prostitution, donc surtout des filles de 14 ans à 17 ans. Et c'est une campagne qui présente un plan structuré en 5 priorités pour y faire face. Ouvrir les yeux, être plus vigilant, protéger les victimes, accéder les procédures contre les auteurs et s'organiser pour répondre aux défis. Il y a eu des articles, des reportages, des films, des séries télévisées qui l'ont précédé. Alors, il faut saluer et dire que c'était effectivement très urgent de faire prendre conscience de ce fléau qu'est la prostitution des mineurs, dénoncé de longue date par les associations abolitionnistes de terrain, dont l'Amicale du Nil, le Mouvement du Nil, la Fondation SEL. Il était urgent de mettre en place des mesures pour prévenir et juguler cette violence. Mais le grand problème de cette campagne, c'est pourquoi cette campagne épargne-t-elle ceux qui sont à l'origine de la prostitution, c'est-à-dire les clients acheteurs d'actes pédocriminels. Où sont les clients ? Quand il s'agit d'informer sur la prostitution des mineurs, articles et caméras préfèrent centrer leur intérêt sur les jeunes filles, victimes à 95%, présentées comme des actrices principales d'un système qui serait dû à leur goût de l'argent facile. Pourquoi pas plutôt sur leurs prédateurs, majeurs en âge de réfléchir, qui les anéantissent ? Non, elles ne se prostituent pas. Non, ce ne sont pas des prostituées, étiquette qui leur est immédiatement attribuée. « On les prostitue », écrit Claudine Le Gardinier. « Proxénétisme de mineurs, où sont les clients ?» C'est un livre qu'elle a écrit le 15 octobre 2021. Cette campagne aurait dû corriger cette façon de présenter la prostitution des mineurs. Donc je remarque d'ailleurs que effectivement, pour la plupart des gens qui bloquent sur l'abolition de la prostitution, ils font tous, la plupart, c'est cette erreur-là qu'ils font, de confondre la prostitution avec les prostituées. Non, c'est pas du tout pareil. Voilà, c'est pas une identité d'être prostituée, c'est une situation. Et les prostituées ne sont pas responsables de leur oppression. Et donc c'est souvent ce que les gens ne comprennent pas, ont dans la tête, qui bloquent et ne comprennent rien du tout au sujet et au problème d'abolition. Donc cette campagne aurait dû corriger cette façon de présenter la prostitution des mineurs. Elle montre les violences subies par les victimes, mais ces violences sont explicitement attribuées aux proxénètes. Alors que les clients commettent tout autant toutes ces violences, dont celle de violer. Cette campagne ne met en avant aucune disposition concernant la responsabilisation des clients et s'en tient à dire, je cite, « une certaine méconnaissance sur la législation en vigueur dans notre pays concernant l'interdiction d'achat d'actes sexuels persiste ». Hein, on se demande pourquoi, vu qu'il n'y a aucune médiatisation, enfin explication de cette loi, aucune volonté de l'expliquer. Voilà, donc la loi du 21 avril 2021 porte la peine à 20 ans de prison pour viol si l'achat d'actes sexuels porte sur une mineure de 15 ans. Donc ça, il faut le préciser. Pourtant, comment faire de la prévention si on n'explique pas l'interdit, si on ne rappelle pas la loi, si on ne montre pas les racines de cette violence et la responsabilité des clients et des proxénètes, les premiers permettant aux seconds de faire de l'argent ? Comment rompre les chaînes de reproduction du phénomène en occultant la cause majeure du système, c'est-à-dire le droit des hommes à accéder de toutes les façons, domination et argent mêlé, au corps des femmes ? Accès rendu plus facile par la vulnérabilité des adolescentes et des plus précaires. Comment se satisfaire d'une campagne qui se complaît dans le soupçon de futilité et de vénalité des adolescentes qui, entre guillemets, prennent des risques ? Une ancienne partie patriarcale qui ne peut être à la base d'une réelle éducation à la sexualité et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc voilà, ça c'était une réaction donc, de l'Amicale du Nil et de la plupart des associations qui se sont associées abolitionnistes par rapport à cette campagne. Voilà. Donc, je ne vais pas avoir le temps de vous faire passer l'extrait de Maud Olivier sur... mais bon, je le ferai une autre fois. Du coup, je vais... parce que Maud Olivier participe à une conférence organisée par l'Assemblée des femmes, la même conférence dont j'avais passé un extrait par rapport à Céline Pic sur la pornographie. Donc Maud Olivier, elle, parlait de la prostitution et la loi, où on en était. Et c'était très bien, mais je vous le passerai une autre fois. Donc du coup, je vais terminer, vu le temps qui reste, par un manifeste qui a été écrit par un front féministe abolitionniste et que je, dont je fais partie et que j'ai co-signé et qui affirme des principes. Donc, je rappelle avant donc, que le 8 mars dernier, comme le 8 mars d'avant, malheureusement, des militantes féministes ont encore une fois été agressées dans plusieurs villes de France pour la simple raison qu'elles affichaient leurs revendications, les positions abolitionnistes qui dénoncent la prostitution en tant que violence et traite sexuelle. Ces revendications sont diabolisées par le lobby des proxénètes et leurs alliés transactivistes. Ils inversent la violence en insultant les militantes féministes de putophobes, transphobes, ce qui légitime à leurs yeux les appels à la violence contre nous. Ces schémas d'intimidation et de silenciation avec harcèlement et violence s'intensifient d'année en année. Cela nous interroge sur les façons de lutter contre ces lobbies misogynes qui utilisent les stratégies des agresseurs décrites par le collectif féministe contre le viol depuis plus de 30 ans. Pour résister à l'idéologie transgenre qui voudrait censurer les féministes abolitionnistes et universalistes et les empêcher d'exprimer leurs opinions et défendre les droits des femmes, les chiennes de garde des Zéro Macho sont à l'initiative du Front Féministe qui regroupe, il y avait plus de 40 associations à ce moment-là et réseaux dans 5 pays, mais ça ne fait qu'augmenter. Donc maintenant, on doit être environ 50, entre 55 et 60 organisations qui ont co-signé. Dans ce manifeste qui a été organisé donc au départ par l'association Chaîne de Garde et Zéro Macho. Donc je vais vous lire ce manifeste. Le féminisme est un engagement pour la justice, l'égalité et la dignité, universaliste, laïque et solidaire. Il rassemble des femmes et des hommes qui partout dans le monde combattent le patriarcat, système de violence et d'oppression fondé sur l'affirmation de la supériorité masculine. Depuis des siècles, des féministes agissent collectivement pour l'égalité des femmes et des hommes, en droit et dans les faits, pour la liberté des êtres humains et la fin des rapports de domination, pour la delphité, c'est-à-dire un idéal associant fraternité et sororité. Nous, responsables d'associations féministes, affirmons le droit des femmes au respect de leur corps sexué et co-signons ce manifeste en 10 principes. En effet, nous constatons depuis le début du XXIe siècle la banalisation croissante de l'exploitation sexuelle de femmes et de filles, l'effacement du mot « femme » et du concept de sexe par des transactivistes qui agressent et menacent des féministes et des lesbiennes. Nous dénonçons l'effacement du sexe au profit du genre, la marchandisation des femmes par la pornoprostitution et la location d'utérus, la culture du viol inhérente au système patriarcal, le contrôle du corps et de l'apparence des femmes. Nous affirmons 10 principes. Premièrement, la prostitution est une exploitation sexuelle machiste. Il n'y a pas de droit à la sexualité. Dans de nombreux pays, les clients prostitueurs sont, selon la loi, coupables d'un délit. Une personne n'est ni une chose, ni une marchandise. Les réseaux mafieux et les proxénètes qui organisent la traite d'êtres humains et exploitent la vulnérabilité de femmes et de filles commettent des crimes. Le consentement à un acte sexuel venant d'une femme exploitée lui est extorqué par la contrainte ou l'emprise. L'argent n'efface pas la violence. Les personnes en situation de handicap ne veulent pas acheter des actes sexuels, même masqués sous l'appellation d'assistance sexuelle, mais vivre dans une société plus ouverte et accessible, ce qui favorisera leur vie sexuelle et affective. Deuxièmement, la pornographie normalise des violences sexuelles infligées à des femmes et à des enfants. Elle met en scène et propage massivement des images la prostitution, ce qui relève de la culture du viol et conforte l'ordre machiste. Non, parce qu'en fait, la phrase c'est « elle met en scène et propage massivement des images de prostitution », mais en fait, moi je voulais dire que c'est pas seulement des images, puisque ce sont des femmes réelles qui sont violées en fait. Troisièmement, la gestation pour autrui, prétendument éthique, est un leurre et la location d'utérus est une violence. Un désir ne crée pas un droit et il n'y a pas de droit à l'enfant. Un être humain ne peut faire l'objet d'un commerce. C'est un principe fondamental du droit. Quatrièmement, le viol a pour unique responsable le violeur. La honte doit peser non sur la victime mais sur le coupable. Chercher des excuses au violeur, c'est être complice. Cinquièmement, les violences du conjoint ne sont pas de l'amour. L'emprise masculine dans le couple hétérosexuel relève de la possessivité et de la domination. On ne bat pas par amour, on ne tue pas par amour. Sixièmement, le respect du corps et de son intégrité est un droit. Les filles et les femmes subissent contre eux les critiques de leur corps, trop gros ou trop maigre, hypersexualisés ou contraints à être dissimulés. Les mutilations sexuelles sont des crimes que l'obéissance à une tradition ne peut justifier. Septièmement, le voile islamique est une oppression sexiste. En Iran, en Afghanistan ou en Arabie Saoudite, des femmes qui refusent de le porter sont harcelées, emprisonnées, fouettées, tuées. En Occident, des femmes subissent des pressions de leur entourage, pressions religieuses pour le porter. D'autres le portent volontairement, ce qui n'en modifie pas le sens discriminatoire, cela ne justifiant évidemment pas des violences envers des femmes voilées. Huitièmement, le sexe relève de la nature et le genre de la culture. C'est l'association des deux qui constitue la personne. Le sexe est une réalité biologique, inscrite dans chacune de nos cellules, avec de multiples conséquences. Production de gamètes, cycle menstruel féminin, masse musculaire supérieure chez l'homme, etc. Le genre ou sexe social est une construction sociale et culturelle des rôles féminins et masculins, qui promeut l'infériorisation du féminin et sa soumission au masculin. Neuvièmement, les femmes trans qui sont des hommes au sens biologique et ont été le plus souvent socialisées en hommes s'identifient comme des femmes. Les hommes trans qui sont des femmes au sens biologique et ont été le plus souvent socialisés en femmes s'identifient comme des hommes. Dixièmement, la mixité femmes-hommes est notre modèle de société. Néanmoins, pour se protéger de la violence masculine, les femmes ont droit à des espaces non mixtes tels que toilettes, vestiaires, prisons ou refuges. La non-mixité peut aussi être un choix de politique, groupe de conscience féministe ou de désir, lieu de rencontre lesbien. Quant au sport, admettre des femmes trans dans des compétitions féminines est inéquitable pour les femmes. Des femmes et des filles cumulent plusieurs oppressions dues à leur origine ethnique, leur couleur de peau, leur âge, leur apparence, leur lesbianisme, leur pauvreté, leur handicap, etc. Leur point commun est d'être du sexe féminin. C'est d'abord en tant que telles, depuis toujours, nous les soutenons. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et ou à dans 15 jours parce que la semaine prochaine, je pense que je serai peut-être pas disponible. Et je vous quitte donc avec toujours mon générique qui est l'hymne des femmes.